La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art. Bonjour et bienvenue dans cette 45e émission de la Semaine de l'Art avec pour invité aujourd'hui Vincent Droguet, qui est directeur. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur des collections et du patrimoine du musée de Fontainebleau, du château de Fontainebleau. Nous avions reçu il y a peut-être 2 ans environ, dans cette même émission, Jean-François Hébert, donc, qui est le président de l'établissement public. Vous êtes le directeur du musée. Ça sera intéressant de parler avec vous de la différence des fonctions et de ce qu'est un établissement public. Mais commençons d'abord par votre parcours comme conservateur. Pouvez-vous nous dire quel a été celui-ci et par quoi vous avez commencé quand vous êtes arrivé à Fontainebleau ?
Alors, moi, je n'ai pas toujours été conservateur de musée, puisque je suis conservateur au château de Fontainebleau depuis 22 ans, pratiquement, ce qui est quand même une longue période. Et j'ai été auparavant, pendant 10 ans, conservateur d'un service aujourd'hui régionalisé, mais qui était alors un service national du ministère de la Culture, qui était l'inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France, fondé, initié par André Malraux.
Donc d'abord, vous avez commencé l'inventaire, ensuite Fontainebleau directement.
Ensuite Fontainebleau directement, mais mes 10 ans à l'inventaire m'ont amené, la devise de l'inventaire était de la cathédrale à la petite cuillère, m'ont amené à m'intéresser au patrimoine architectural qui était mon tropisme premier. C'est ce qui m'a amené à l'histoire de l'art, c'était l'architecture, l'histoire de l'architecture. Mais du coup, j'ai découvert le monde de la peinture, le monde des objets d'art, et de là, mon souhait de passer dans un musée château.
Alors parlons quand même un petit peu de l'inventaire, parce que je n'ai jamais reçu personne de l'inventaire ici, c'est une lacune que j'essaierai de combler. Mais à votre époque, donc, vous l'avez dit, l'inventaire était national. Quel était son rôle exactement ?
Alors moi j'ai eu la chance à l'inventaire de travailler sur un patrimoine urbain. L'inventaire c'était plus investi dans le patrimoine rural, puis dans le patrimoine industriel. J'ai eu la chance de travailler sur un terrain urbain extrêmement fertile, magnifique, qui était la ville de Tours. La ville de Tours qui, bon, fait un peu...
Qui fait un peu l'actualité, mais l'actualité. Qui a, manifestement, on pourra en parler en termes de mots, c'est que ça s'oriente, je pense, vers une solution qui satisfera tout le monde.
Alors, c'est souhaitable.
Espérons-le, en tout cas.
C'est souhaitable. Mais c'était une expérience formidable parce que on examinait effectivement le patrimoine, tant architectural que mobilier, avec, je l'espère, la même attention. Donc, c'était une aventure extraordinaire parce qu'il n'y avait pas de mesures juridiques qui étaient associées à l'examen que nous faisions du patrimoine, contrairement au service des monuments historiques. On était d'une certaine manière très libre. Et du coup, on était un peu étrange dans une administration culturelle qui est normalement faite pour prendre des mesures de protection, pour décréter un certain nombre de choses. Là, on était un service de recherche, un service scientifique. Et à l'intérieur des directions régionales des affaires culturelles, le positionnement n'était pas toujours très simple.
Justement, l'inventaire, il est chargé d'inventorier, ce qui veut dire qu'il va inventorier tout ce qui lui paraît digne d'intérêt, mais qu'en aucune façon, donc vous l'avez dit, il ne protège. Ça veut dire que des choses que vous avez inventoriées ont pu disparaître ?
En tout cas, des ensembles que moi j'ai pu voir à l'intérieur de la ville de Tours, je pense par exemple à l'ensemble patrimonial que constituait le Carmel de la ville de Tours. Le Carmel a été dispersé, le Carmel de Tours, qui était une très très vieille fondation, a été supprimé, les religieuses ont été envoyées dans d'autres établissements, et le patrimoine culturel mobilier qui était lié à cette communauté religieuse a lui aussi été dispersé. Donc, je ne pense pas que les objets aient disparu, mais en tant qu'ensemble, il a disparu, d'une certaine façon. Et évidemment, l'inventaire, c'était, malgré tout, l'examen des objets, de l'architecture, des ensembles mobiliers, à un temps T. On fixait les choses à un moment donné.
Et donc, ces œuvres ont été vendues à un moment donné ? Il y a eu une vente ? Il y a eu quelque chose ?
Il y a eu des ventes. Certaines œuvres ont été, je crois, sont passées dans les collections des musées de la ville. C'est une chose que je n'ai pas très bien suivie après, mais je crois qu'il y a eu effectivement des ventes ou des tentatives de vente.
Donc vous êtes 10 ans à l'inventaire et ensuite vous intégrez, vous rentrez au château de Fontainebleau. Pourquoi le château de Fontainebleau ? C'est, vous étiez hors musée et vous rentrez dans un musée qui est un musée château. C'était un souhait de votre part ?
Alors d'abord, c'est une opération qui a été rendue possible par une modification sur le plan administratif du statut des conservateurs, puisqu'il y a eu ce corps commun. Avant, on passait le concours de l'inventaire, le concours des musées ou le concours des monuments historiques, et on restait dans sa filière.
On ne pouvait pas du tout bouger.
Les ponts étaient assez difficiles à établir. En tout cas, ils n'étaient pas formalisés. Alors qu'à partir du moment où il y a eu un concours et un corps commun, les passerelles, évidemment, ont été possibles. Ça supposait de passer devant une commission d'évaluation scientifique qui vous déclarait ou non apte à passer dans un autre corps. Donc j'ai bénéficié, en réalité, de cette mesure qui m'a permis de passer du service de l'inventaire général, dans lequel je me trouvais très bien, mais au bout de 10 ans, je me suis dit, voilà, est-ce que j'essaye d'aller ailleurs ? Et je suis passé, effectivement, dans un musée château qui est le château de Fontainebleau. Pour moi, c'était l'idée de travailler dans un des grands châteaux, dans un des grands palais de l'histoire de France, d'une certaine manière, c'était un vieux rêve. À l'âge de 14 ans, j'ai pris ma plume et j'ai écrit à Gérald van der Kem, qui était alors le conservateur de Versailles, en gros pour lui demander comment faire pour prendre sa place. Bon, j'y suis pas arrivé, mais entre-temps, j'ai découvert que finalement, Fontainebleau avait des charmes peut-être aussi grands que ceux de Versailles, et mon tropisme pour l'architecture, pour la Renaissance également, m'a amené à candidater pour Fontainebleau, et c'est Amaury Lefebure qui était à ce moment-là directeur, et qui m'a fait confiance, qui m'a recruté dans son équipe.
Et vous arrivez en quelle année à Fontainebleau ?
J'arrive au début de l'année 1995 à Fontainebleau.
Et vous devenez directeur il y a 3 ans, c'est ça ?
Voilà, je suis devenu directeur du patrimoine et des collections au départ de Xavier Salmon. La ministre a dû signer mon arrêté de nomination au moment de Noël 2013.
Quelle est la spécificité d'un musée château ou d'un musée château par rapport à un musée de collection classique ?
Alors la grande différence, évidemment, c'est que les collections d'un musée château sont constituées par son ameublement, au sens large du terme, qui inclut non seulement le mobilier, mais les objets d'art et les décors, arrêtés, même si je n'aime pas le terme, arrêtés à un moment donné. Et à Fontainebleau, l'intérieur du palais est meublé, présenté au public, pour une part dans son état du Premier Empire, et pour une part dans son état du Second Empire. Ça veut dire qu'il y a un lien évidemment très fort, consubstantiel, entre l'histoire et ce que l'on présente au public, et les collections. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est ça qui m'intéressait, et aussi évidemment le lien entre architecture, décor, collection. Je crois que je ne me serais jamais senti bien dans ce que certains de mes collègues appellent un musée de mur blanc, c'est-à-dire effectivement, les œuvres sont accrochées selon une logique qui est celle de l'histoire de l'art, de l'évolution des arts, des divisions entre les arts. J'avoue que je préfère de beaucoup être dans un lieu qui a été habité, où il y a eu une vie effectivement assez intense.
Votre responsabilité s'applique sur l'ensemble du château, l'extérieur également, les jardins. Quelle est votre responsabilité scientifique ?
Alors, le décret fondateur de l'établissement public en 2009 confie la responsabilité de cet établissement à un président qui a à côté de lui un conseil d'administration, à un administrateur qui est aujourd'hui une administratrice, Isabelle de Gourcuff, et à un directeur du patrimoine et des collections. Ce directeur du patrimoine et des collections a avec lui une équipe scientifique de conservateurs qui est en charge des collections mobilières du château, mais qui a un regard, une responsabilité scientifique de contrôle sur ce qui se passe dans le domaine de l'architecture, des décors et même des jardins. Il se trouve que j'ai écrit un ouvrage sur les jardins de Fontainebleau, j'ai plutôt commis un ouvrage sur les jardins de Fontainebleau, donc mon intérêt pour les jardins est grand, mais je suis les différents comités qui se déroulent en ce moment sur le plan de gestion des jardins, sur ce qu'on envisage de faire pour les jardins du château. Donc le directeur du patrimoine et des collections, dans ce terme-là, dans cette expression, le terme patrimoine est évidemment important.
J'ai reçu ici même donc Jean-François Hébert et j'ai pu discuter avec lui d'une chose dont je ne me cache pas, c'est que je préfère en général un musée ou un château dirigé par un scientifique. Mais il faut avouer, il faut reconnaître que le château de Fontainebleau parmi les établissements publics dans cette configuration est un de ceux qui travaillent le mieux parce qu'il y a vraiment une répartition des rôles que l'on voit bien avec un président qui préside et qui laisse travailler ses équipes scientifiquement. Et en tout cas, tout ce que fait le château de Fontainebleau, je veux dire, je n'ai jamais à m'en plaindre. On a vraiment un vrai travail scientifique, on en parlera tout à l'heure, avec des acquisitions, des restaurations, avec un architecte en chef des monuments historiques qui est excellent, qui est Patrick Ponson, on en parlera certainement également. Donc c'est un établissement public qui travaille bien, on aimerait qu'ils soient tous comme celui-ci. Par rapport à cela, comment voyez-vous votre travail avec Jean-François Hébert, justement? Comment est-ce que ça s'articule de manière un peu plus précise?
Comme vous le dites, et je vous remercie de ce que vous dites sur le travail qui est fait à l'intérieur du château de Fontainebleau, sans doute, le fait que ce travail soit possible et soit harmonieux vient effectivement de la juste répartition des tâches. Jean-François Hébert, il le dirait mieux que moi, mais est dans un rôle de réflexion stratégique, c'est-à-dire qu'il est très investi effectivement dans les axes stratégiques de l'établissement et la mise en place du schéma directeur de rénovation qui assure à l'établissement un financement exceptionnel en une période tout de même de relative disette financière, c'est-à-dire un plan sur 12 ans qui nous permet de faire à peu près 10 millions de travaux par an dans le domaine de la sûreté et de la sécurité. C'est véritablement son œuvre. Alors c'est une œuvre collective, évidemment, quelque chose comme ça, mais il a choisi ce positionnement stratégique et il a obtenu les financements, la validation de ce schéma directeur par le ministère de la Culture. Donc c'est véritablement une affaire de grands axes stratégiques que Jean-François Hébert met en place. Il tient compte, évidemment, dans ces axes stratégiques, de tout l'aspect conservation et également de la mise en place d'une politique de publication, d'une politique d'exposition. Mais il n'intervient pas directement dans cette politique, même si évidemment toutes les décisions sont prises en collégialité. Nous avons un comité des événements culturels qui, effectivement, devant lequel la conservation présente ses projets d'exposition, et naturellement le président les valide, mais malgré tout, le président fait confiance à ses équipes. Et donc, si le travail est harmonieux, c'est parce qu'il y a une confiance mutuelle et une répartition des tâches qui est claire, même si évidemment il y a une transversalité. Hein, sinon, si chacun était complètement cloisonné dans ce qu'il fait, ça n'irait pas. Mais il n'y a pas d'ingérence, je dirais, du président ni de l'administration dans les missions premières de conservation, de restauration et de politique d'exposition et de publication.
Et avec l'équipe de conservation, comment se répartissent les rôles? Est-ce qu'il y a des départements? Combien d'abord avez-vous de conservateurs? Et comment se répartissent la charge des collections?
Alors j'ai avec moi 5 conservateurs, ce qui pour une grande maison comme Fontainebleau, parce que c'est un grand château, 1530 pièces, probablement 30 000 œuvres, c'est une petite équipe. C'est une petite équipe. Je disais l'autre jour dans le Figaro l'interview de ma collègue Béatrix Saul qui disait que quand elle est arrivée à Fontainebleau, ils étaient une toute petite équipe de 6 conservateurs. Ben voilà, Fontainebleau, en 2016, effectivement, est une équipe de 5 conservateurs plus le directeur du patrimoine et des collections qui a encore quelques responsabilités dans le domaine de la conservation, mais qui malheureusement fait pas mal d'autres choses.
Vous avez des attachés de conservation, des assistants de conservation?
Non, on n'a pas d'assistants de conservation. C'est un des problèmes de la conservation de Fontainebleau et de Fontainebleau en règle générale, c'est-à-dire que vous avez une équipe d'encadrement réduite et très peu de démultiplication de cette équipe d'encadrement. On passe tout de suite après à des emplois plutôt de catégorie C. Donc ça, c'est véritablement un problème. La conservation, elle est divisée effectivement plutôt en départements, une responsable de la peinture, une responsable de la sculpture, un responsable du mobilier du Premier Empire, un responsable du mobilier plutôt, Louis-Philippe, Second Empire et des textiles, et un responsable du musée Napoléon, qui est une entité particulière au sein du château. En même temps, comme on est une petite équipe, chacun met un peu la main à la pâte sans essayer d'empiéter sur les domaines de l'autre. Mais malgré tout, il y a une transversalité qui se crée.
Alors vous disiez que, ce n'est pas un musée à mur blanc, comme disent vos confrères, mais vous avez tout de même une collection de peintures qui est exposée, qui malheureusement n'est pas ouverte en permanence. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez? Et est-ce qu'il y a beaucoup de tableaux? Moi, par exemple, récemment, j'ai fait un article sur un tableau, une esquisse de Charles Landel, acquise par le musée de bois. Le musée de bois pensait que c'était une esquisse pour un tableau que vous conserviez, alors que
moi
non.
Moi aussi, je le pensais.
Et qu'en fait, c'est une esquisse pour le musée de Sens. Cette œuvre n'est pas présentée, ce qui est dommage. Est-ce que vous avez beaucoup d'œuvres comme celle-ci qui ne sont pas exposées et que vous aimeriez exposer? Et où pourriez-vous le faire? Est-ce que vous pourriez étendre ce musée? Est-ce qu'on pourrait le voir plus souvent? C'est un petit musée des beaux-arts quand même que vous avez.
Je vous avoue que c'est un de mes crève-cœurs, cette histoire. C'est-à-dire de ne pas avoir la possibilité de présenter au public la collection de peinture du château, qui est une collection importante et qui est un complément, le terme complément est peut-être même un peu faible, un peu péjoratif, à la visite du château. Parce que nous avons dans cette collection des grands tableaux de la seconde école de Fontainebleau que nous sommes pratiquement les seuls, avec le Louvre, à pouvoir présenter au public. Vous connaissez comme moi le château, vous connaissez la difficulté qu'il y a à rajouter des tableaux au circuit de visite. Le château de Fontainebleau est connu pour ses décors muraux, il est hors de question, là, d'installer sur les fresques de Rousseau ou dans la salle de bal des tableaux. Donc il faut trouver une autre solution. C'est une question qui n'est pas récente. Ma collègue Daniel Véron-Denise, avec qui j'ai travaillé avec bonheur pendant des années, qui était responsable des peintures au château, avec elle, nous avions fait une exposition qui s'appelait 50 peintures pour un château, et où on avait investi une enfilade de salles sur la Cour des Princes. À la fermeture de cette exposition, en 1998, si mes souvenirs sont bons, on avait décidé, avec Amaury Lefébure, de laisser les peintures en place, ce qui constitue aujourd'hui notre galerie de peintures. Donc les tableaux sont là, avec des tableaux très importants, des tableaux Rubens, des tableaux de l'Albane, des tableaux justement de la seconde école de Fontainebleau, de Dubois, de Dubreuil, et des choses relativement rares également, le morceau de réception de Joseph Vernet, enfin des choses importantes. Malheureusement, pour des questions d'effectifs, pour des questions de parcours, de difficultés du parcours, pour des questions aussi de mise à distance, cette présentation est relativement fragile, elle avait été faite pour une exposition, pas pour une présentation pérenne. Nous n'ouvrons ces salles que 3 jours par an à l'occasion du Festival d'Histoire de l'Art.
Auquel, s'ils n'y vont pas déjà, j'incite tous les auditeurs à se rendre, c'est un événement extraordinaire.
C'est un grand rendez-vous pour la profession des historiens d'art, pas seulement, pour les amateurs aussi. Et c'est un grand rendez-vous pour le château. C'est devenu pour nous un rendez-vous exceptionnel de contact avec les autres collègues, avec le monde universitaire, avec le monde de la recherche. Donc évidemment, ça c'est un crève-cœur de ne pas pouvoir montrer plus la collection de peintures. Alors on y travaille avec Oriane Beaufils qui vient d'arriver comme conservatrice des peintures à Fontainebleau, qui sort de l'INP, qui vient d'arriver. Et on va essayer justement cet été de présenter l'allégorie de la Renaissance de Landel dont vous parliez, parce que ça va être un clin d'œil avec le musée des Coins, le musée de la Renaissance, qui fête son 40e anniversaire, je ne vais pas dire de bêtises, et avec Thierry Crépin-Leblond nous a demandé de faire un clin d'œil à Fontainebleau, et ça va être la présentation de cette allégorie de la Renaissance. Mais c'est vrai que nous avons des tableaux en réserve, comme tous les musées. Bon, et puis,
mais beaucoup, est-ce que vous avez beaucoup d'œuvres que vous pourriez présenter qui serait digne d'être présenté dans un parcours?
On a quelques œuvres, effectivement, en réserve qui mériteraient d'être présentées, pas tant que ça. On ne cache pas au public des chefs-d'œuvre absolus. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a tenu...
Landel est un chef-d'œuvre absolu.
Oui, je plaisante. Sans doute, mais c'est pourquoi on a souhaité mettre dans le circuit de visite du public, dans le circuit que le public voit tous les jours, La Marchande d'amour devient, par exemple, une icône absolument incontournable. Là, il faut que tout le monde puisse la voir. Après, il y a la galerie de peinture que un certain nombre de groupes en visite guidée peuvent voir. Et puis, il y a les réserves, comme tout musée, avec des tableaux que pour certaines occasions, on peut sortir. On avait sorti un tableau de Mesdag pour le Festival d'Histoire de l'Art.
Surtout que ce n'est pas très fréquent, les tableaux de Mesdag dans les collections françaises.
Absolument, et Pierre Rosenberg nous avait fait remarquer que le nôtre était absolument superbe, un grand paysage marin qu'on avait nettoyé pour la circonstance et qu'on avait présenté pour la circonstance. Bon, l'essentiel, c'est que de temps en temps, on puisse effectivement présenter tout de même au public des tableaux de ces réserves.
Parmi les collections que vous montrez ou que vous ne montrez pas, quelles sont d'abord vos réserves sont, je crois, il y a beaucoup de choses que vous pourriez montrer, mais que vous n'avez pas la place de montrer. Par exemple, les regrets que vous avez ou les espoirs que vous nourrissez pour le futur dans de nouvelles présentations.
Alors, les réserves du château, c'est un sujet qui nous travailler beaucoup en ce moment, justement dans le cadre de ce schéma directeur de rénovation, où on doit regrouper les réserves du château. Pour l'instant, les réserves du château, elles sont disséminées dans 200 points.
Donc vous avez trouvé d'aller les envoyer à Lens?
Sûrement pas. Non. Mon souci dans ce cas-là, et le souci de toute l'équipe de conservation, et je dirais de toute l'équipe du château, et que les objets restent sur place à l'intérieur du domaine. On a un château de 1530 pièces. Si on ne réussit pas à trouver dans cet ensemble de bâtiments la place pour y installer les réserves de mobilier et les réserves d'objets en général, je trouve que ça serait un peu exagéré, même si on envisage effectivement à l'intérieur du domaine d'installer une réserve disons moderne entre guillemets avec
un petit peu extériorisé
à l'intérieur du domaine
dans
une autre partie encore une fois on est un musée château et les collections mobilières sont liées intrinsèquement à l'histoire de la maison et ne sont compréhensibles non de valeur je parle pas de valeur financière mais non de valeur historique que si elles restent liées ancré au château lui-même. Au moment de la Révolution, il y avait 600 appartements meublés dans le château. En 1870, un peu moins. Il est évident qu'on ne va pas reconstituer pour la visite des centaines d'appartements meublés. Ça serait absurde. Personne ne voudrait voir ça. Simplement, on a récupéré, on a encore dans le château, des centaines de tables de toilette, des centaines de toilettes en porcelaine de Sèvres. C'est le nombre, c'est de voir ces éléments en nombre qui pourrait permettre à éventuellement un petit public si on a une partie de réserve visitable, d'imaginer ce que pouvait être ce grand hôtel de Fontainebleau lorsqu'il était en fonctionnement. C'est aujourd'hui pratiquement le seul moyen de le savoir. Parce que un des problèmes qu'on a dans la présentation du château, c'est qu'on montre au public les appartements d'apparat. Mais on n'a aucune idée du fonctionnement. Et cette idée du fonctionnement, elle peut être donnée justement par le nombre d'objets mobiliers qui sont encore conservés au château et qui témoignent du nombre de personnes qui suivaient la cour.
Quelles sont vos relations avec les autres musées châteaux? Je crois qu'il y a un réseau des musées châteaux. Alors, quelles sont vos relations avec Versailles ou avec des musées châteaux qui, à mon sens, fonctionnent très bien, comme Compiègne, comme Écouen, vous avez parlé d'Écouen, peut-être certainement d'autres, et éventuellement même avec les musées châteaux à l'étranger. Comment est-ce que ce réseau fonctionne et quels sont vos échanges ou vos réflexions communes?
Alors, c'est un réseau... en réalité plutôt informel, puisque nous n'appartenons pas encore effectivement à ce réseau des châteaux européens. On
va essayer. Il y a un réseau officiel. Pourquoi vous avez candidaté ou vous n'avez pas voulu y être?
Alors, on n'a pas encore candidaté. Le colloque qui avait lieu à Compiègne il y a 2 ans, quelque chose comme ça, sur les résidences royales, sur les questions de remeublement, m'avait ouvert les yeux évidemment sur l'importance de ces réseaux. Il faut absolument qu'on puisse y entrer. Bon, il y a un certain nombre de barrières à franchir, mais on devrait pouvoir y arriver et nouer des contacts effectivement avec les autres grands musées châteaux européens. Pour ce qui est des liens avec les musées châteaux français, évidemment, les plus proches de nous sont Compiègne, Malmaison qui est dirigé par Amaury Lefébure, qui a été directeur de Fontainebleau. Bon, je veux dire, les liens sont assez naturels. Versailles, bien entendu, Versailles, qui est un prêteur très souvent sollicité pour les expositions de Fontainebleau. On l'a vu pour notre exposition sur Louis XV à Fontainebleau, beaucoup de choses avaient été sollicitées à Versailles et les prêts sont accordés très généreusement. Et puis effectivement, avec des musées installés dans des châteaux, comme le Musée national de la Renaissance, où effectivement, là aussi, en raison de la présence très importante de la Renaissance à Fontainebleau, on a des liens très fréquents avec Thierry Crépin-Leblanc. Donc ces liens, ils se font notamment au moment de la commission des acquisitions, parce que quand on fait une acquisition, il faut savoir si un autre musée, château notamment, n'est pas intéressé par la même acquisition. Ça peut être effectivement un cas de figure. Et le dialogue, les liens se font assez naturellement.
Vous avez dans le château plusieurs musées en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces musées se répartissent? Et vous avez un grand projet de musée Napoléon Ier.
Oui. Alors en réalité, le château de Fontainebleau est une entité en soi. Au sein de cette entité, il y a des ensembles qu'on nomme musée chinois, musée Napoléon, effectivement, mais qui n'ont pas un statut d'exterritorialité, en quelque sorte. Hein. Le musée chinois, c'est une vieille appellation qui date du Second Empire, pour désigner la collection chinoise de l'impératrice, au sens où on parle de musée Ponce dans le cousin Ponce de Balzac. Hein. C'est un peu la même chose, mais il n'y a pas un musée chinois qui aurait une entité spécifique. Dans le cas du musée Napoléon, effectivement, c'est un peu particulier, puisqu'il s'agit d'une création liée à la donation et à la dation du prince Napoléon en 1979 avec sa sœur, la comtesse de Witt, qui a souhaité que le patrimoine de la famille impériale, en tout cas une partie du patrimoine de la famille impériale, arrive dans les collections de l'État et soit traité avec l'importance qu'il méritait. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est... l'accord s'est déroulé en 1979, et du coup, après 6 ans de travaux, le musée Napoléon a ouvert dans l'aile Louis XV du château en 1986, avec des collections napoléoniennes évidemment très riches, puisque c'était celle de la famille impériale, le prince Napoléon, descendant de Jérôme, le dernier frère de Napoléon. C'est un musée donc ouvert depuis 1986 qui répondait à l'origine à une logique de division en salles illustrant chacun des membres de la famille impériale. Et puis, il y a eu un événement dramatique en 1995 qui a été le cambriolage du musée Napoléon en novembre 1995, le cambriolage du rez-de-chaussée. On a pratiquement aujourd'hui récupéré toutes les œuvres, en tout cas toutes les œuvres importantes. Donc, tout est bien qui finit bien de ce point de vue-là. Malgré tout, ça a amené Amaury de Fébure, directeur du château à ce moment-là, à remonter toutes les œuvres du musée au premier étage, et du coup à densifier la présentation, et du coup aussi à abandonner cette logique d'illustration des différents personnages de la famille impériale pour avoir quelque chose qui soit un peu différent dans sa présentation. Le projet actuel, qui fait partie justement de ce schéma directeur de rénovation, c'est de redéployer le musée au premier et au deuxième étage, puisque le rez-de-chaussée est aujourd'hui occupé par l'accueil et que le rez-de-chaussée est malheureusement resté une zone tout de même de faiblesse sur le plan de la sécurité à cause des jardins environnants, la possibilité de s'introduire dans les jardins. Donc l'idée, c'est d'investir le deuxième étage, mais là avec une vision plus, si vous voulez, musée du premier empire. Pour faire court, même s'il faudrait expliquer ça, Christophe Beyeler, responsable du musée Napoléon, le ferait mieux que moi, c'est-à-dire les rouages du pouvoir napoléonien, mais ça n'est pas un musée d'histoire, c'est un musée où les œuvres expliquent, effectivement, sont là pour expliquer le Premier Empire, pour illustrer en quoi le Premier Empire et Napoléon s'est servi de la production artistique pour diffuser une de la grandeur de la France.
L'ouverture est prévue pour quand de ce musée agrandi?
Alors l'ouverture de ce musée agrandi, c'est pas avant 2024, quelque chose
oui, donc
comme
c'est,
ça.
Mais
c'est pas tout de suite.
Tout de suite.
Mais la préparation d'un musée, même le musée existe. Hein, le musée Napoléon existe. Les chefs-d'œuvre sont là. Le grand vermeil est là. Les grands services de porcelaine sont déjà présents. le service des quartiers généraux ou autres, et puis un certain nombre d'objets extrêmement importants. Nous travaillons, je dirais quotidiennement, pratiquement, à l'enrichissement de ces collections. Et la politique d'acquisition dont on parlera
tout à l'heure,
est largement orientée vers le musée Napoléon.
Vous n'avez pas eu de chance au Château Fontainebleau avec les vols, puisque alors vous parliez du vol dans le musée Napoléon, pour lequel vous dites que vous êtes tout récupéré ou presque, mais vous avez eu il y a quelques années, il y a très peu de temps, 3-4 ans, un vol au musée chinois. Là, malheureusement, il est à craindre que les objets soient maintenant en Chine et qu'on ne les récupère jamais.
C'était il y a moins longtemps que ça,
parce que
je me souviendrai toute ma vie de la sirène d'alarme sonnant à 6h du matin le 1er mars 2015.
C'est mon
septembre à moi, d'une certaine façon. C'est effectivement un moment très, très douloureux, mais là, on est finalement dans les mêmes causes produisant les mêmes effets. La fragilité jusqu'à maintenant de la protection périmétrique du domaine fait que effectivement des cambrioleurs ont pu de nouveau s'introduire dans les jardins avec une voiture et attaquer le musée chinois qui est au rez-de-chaussée, mais là on ne pourra pas le remonter d'un étage puisqu'il est dans son état historique, et dérober un nombre d'objets relativement importants, dont des pièces très importantes, la réplique de la couronne de Siam, un mandala en or, des choses très importantes. J'ai peur, effectivement, que... Je garde espoir, parce que c'est mon rôle de garder espoir, mais malgré tout, j'ai peur que le scénario qu'on a vu se mettre en place pour le musée Napoléon, c'est-à-dire d'une récupération lente des choses, mais malgré tout presque totale, en tout cas des objets les plus importants, que malheureusement ce scénario ne soit pas le même, tout au moins à une échéance moyenne pour les objets chinois.
L'enquête avance, vous avez des éléments d'enquête que vous pourriez donner ou pas, ou divulguer ou pas ?
Non, malheureusement, je n'ai pas d'éléments nouveaux de l'enquête.
Parlons maintenant des restaurations. Donc, nous disions un mot tout à l'heure de l'architecte en chef, oui. Patrick Monceau, mais c'est à la fois les restaurations extérieures, des restaurations intérieures. Par exemple, j'ai eu l'occasion de parler de la restauration des tissus avec une technique tout à fait originale d'un film qui double et qui évite de changer les garnitures des murs ou les tapisseries. Vous avez une déontologie, en tout cas des choix bien affirmés pour vos restaurations.
Oui, alors je dirais que ça a commencé, le terme n'est peut-être pas tout à fait juste, avec la restauration du théâtre Napoléon III, qui a quand même été une très grande affaire, ce qui n'est pas terminé. Mais malgré tout, la restauration de la salle est terminée. On s'est beaucoup, beaucoup interrogé sur le fait de savoir comment il fallait traiter cette salle. Est-ce qu'on ambitionnait de remettre le théâtre en service, si je puis dire, et auquel cas les commissions de sécurité nous obligeraient à des travaux extrêmement intrusifs ? La sagesse a prévalu, et là, le président et le directeur du patrimoine des collections se sont retrouvés sur la même ligne, effectivement. La sagesse a prévalu, et on a restauré le théâtre comme on aurait restauré une salle de musée. Simplement, on est allé peut-être encore plus loin dans la mesure où on a souhaité conserver, parce que c'était possible de le faire, tous les textiles anciens. Quand je suis arrivé au château de Fontainebleau, on n'envisageait pas la restauration de ce théâtre sans un retissage systématique. Là, les mentalités ont changé. Même si, évidemment...
Je ne suis pas sûr qu'elles aient changé partout, mais enfin bon, en tout cas, Fontainebleau, ça a changé.
Je dirais dans un certain nombre de maisons qui réfléchissent à l'intégrité de leur patrimoine, les mentalités, me semble-t-il, ont changé. En tout cas, aussi parmi les jeunes générations de conservateurs, parce que ça, c'est aussi un phénomène générationnel, d'une certaine façon, de considérer que le patrimoine et la fragilité de ce patrimoine, ça n'est pas seulement valable pour les grands chefs-d'œuvre, mais c'est aussi valable pour les éléments textiles dont on pensait que une fois qu'ils étaient retissés, ben, grosso modo, on avait la même chose.
C'est un peu comme si on repeignait un tableau et on avait la même chose.
Comme si on repeignait un tableau où on a un peu le pendant dans le domaine de l'architecture. Un mur avec des pierres neuves n'est pas le mur ancien.
J'ai envie de dire quelque chose, mais je ne veux pas vous mettre en difficulté. Comme si on reconstruisait une grille, par exemple, et que c'était la même chose. Mais bon, c'est moi qui le dis, ça n'est pas Vincent Droguet.
Voilà, malgré tout, une distance, mais en tout cas... On a à Fontainebleau, comme à Compiègne, comme à Malmaison, comme à Pau, des collections textiles évidemment extrêmement importantes, des tapisseries, mais aussi des soieries. Et le problème est particulièrement aigu. Est-ce qu'on montre au public une copie de ces textiles ou est-ce qu'on montre l'original avec évidemment une pédagogie qui veut que, bien sûr, on montre un textile qui est un peu fané, mais qui a le mérite d'être l'original, celui que les contemporains ont eu sous les yeux. Et ça, mon collègue Vincent Cochet, responsable des textiles, a fait un travail absolument exemplaire et innovant. Et innovant, je dois bien dire,
ce qu'on avait écrit,
pour le théâtre Napoléon III, qui a été un énorme galop d'essai en quelque sorte, et ce qu'il fait dans les petits appartements de l'empereur et de l'impératrice est évidemment très, très, très important.
Quelles sont les restaurations qui viennent ou qui vont se terminer? Quelles sont celles que vous envisagez? En fait, quel est le programme actuel de restauration? Là, on ne parle pas en œuvre d'art unique, mais en pièces, ou même les restaurations sur le château lui-même.
Alors, le château est en chantier, en travaux, des chantiers qui démarrent là et qui vont durer 12 ans, ce qui est la période inscrite pour le schéma directeur de rénovation. Ces travaux liés au schéma directeur de rénovation sont des travaux qui touchent la sécurité et la sûreté, c'est-à-dire le clos et le couvert, un certain nombre de couvertures qu'il faut refaire, qui étaient déficientes avec des fuites qui nous amenaient des chutes de matière picturale dans la galerie Tiane, par exemple.
Oui, c'est
absolument intervenir.
Cette galerie est une galerie qui est préoccupante, même enfin, son
c'est
état.
Galerie,
et...
c'est préoccupant. Alors, j'espère que ça l'est de moins en moins, mais ça l'a été vraiment très fortement. Et il faut bien dire qu'on a eu un certain nombre d'accidents sur un médaillon. Je ne cherche pas à le cacher. Il faudra qu'on s'oriente un jour vers une restauration. Mais c'est un monstre, la galerie, sur le plan des dimensions, sur le plan de la taille. Donc, travaux de sûreté et sécurité qui sont liés, dans lesquels sont également intégrés l'éclairage de sécurité dans les pièces, c'est-à-dire les petits bonshommes verts. C'est pas forcément très extraordinaire, mais bon, les normes de sécurité font qu'on va en avoir si je puis dire, le moins possible, en tout cas en accord avec les pompiers, mais on est contraint d'installer cet éclairage de sécurité. Ce qui fait pour l'évacuation du public.
Je crains le pire.
On y a réfléchi avec Patrick Ponceau et je pense que ça devrait être, enfin, j'espère que ça sera supportable. En tout cas, ces travaux sont très intrusifs, sont très impactants. Ça va, pour l'année 2017, supposer 2000 mouvements de meubles et d'objets. Il faut protéger les rideaux. L'équipe est très, très largement occupée, l'équipe de régie, évidemment, du château qui compte deux personnes, trois avec un installateur, et l'équipe de conservation très, très occupée par cela. Ce qui fait que les restaurations, elles vont se limiter, si je puis dire, à des restaurations de meubles, des restaurations de textiles qui continuent dans les petits appartements. Les petits appartements, on avance petit à petit, et ils ont beaucoup, beaucoup changé depuis une dizaine d'années. Et des restaurations de tableaux, on a entamé la restauration du cycle d'Ambroise Dubois, du cycle de Théagène et Cariclée. Et on espère négocier un mécénat avec BNP Paribas pour la restauration intégrale de ce cycle. Donc ça, on s'oriente vers des restaurations de grands cycles de tableaux, effectivement.
Et sur le château lui-même, c'est-à-dire sur l'extérieur, sur l'architecture?
Alors, sur l'architecture, toutes les couvertures de l'aile Louis XV ont été refaites, et du coup, Patrick Ponceau en a profité pour restaurer les grands frontons sculptés de l'aile Louis XV, qui donne quelque chose d'assez, je dirais pas spectaculaire, parce que quand on dit spectaculaire, on imagine une restauration clinquante, ce qui n'est pas le cas du tout, mais en tout cas une lisibilité plus grande. Tout récemment, on a eu les conclusions d'une étude concernant l'état des peintures à fresques de la voûte de la Porte Dorée, qui est un élément peu connu du château, parce que le public n'y va pas. Or, ces peintures sont dans un assez mauvais état, laissé par l'histoire, mais ce sont des peintures de Primatis des années 1540, extrêmement importantes. Et on a fait faire des tests par un restaurateur. Une restauration rendrait à ces peintures une lisibilité plus grande. Donc au moins maintenant, on sait financièrement ce qui serait nécessaire pour la restauration de ces peintures, et on a déjà une idée de ce que ça donnerait. Donc on peut espérer que dans les années à venir, on essaye de faire déboucher ce dossier. Patrick Ponceau a également produit une étude très importante, très remarquable, qui a été présentée, qu'on est allé présenter à la Commission nationale des monuments historiques, pour avoir son aval concernant la salle de bal.
Oui, on voit, alors là, il y a vraiment des morceaux de peinture qu'on voit presque se détacher, qui ont été stabilisés.
Heureusement, ça a été stabilisé. La première préoccupation, effectivement, même si pendant longtemps, malheureusement, les choses s'étaient dégradées, ça a été de stabiliser, bien sûr, les choses, de stabiliser les choses. Après, Patrick Ponceau a réalisé une étude pour savoir pourquoi ça avait été un problème à répétition, cette salle de bal. Et on a fini par mettre le doigt sur des problèmes de circulation d'air chaud, d'air froid, pas seulement ça d'ailleurs. Mais maintenant, grosso modo, on sait ce qu'il faudrait faire pour que les peintures soient plus lisibles, soient hors de danger d'une certaine manière, et la salle plus présentable. Il faut voir que la salle de bal, comme la galerie François Ier, ont été restaurées il y a 50 ans, avec la loi programme de Malraux qui a fait quand même des choses extraordinaires au château, qui a amené non seulement beaucoup d'argent, mais beaucoup de réflexion. Hein, le numéro spécial de la revue de l'art sur la galerie François Ier est quand même quelque chose de fondateur. On est 50 ans après, il faut y revenir. Il faut y revenir soit pour des nettoyages, comme ce serait le cas dans la galerie François Ier, sur les stucs qui ont pris une couleur assez désagréable, soit effectivement de manière sans doute un peu plus fondamentale sur les peintures de la salle de bal.
Est-ce que pour les peintures murales, j'étais hier à l'inauguration de la chapelle des Saints-Anges de Gênes de la Croix à Saint-Sulpice, une des peintures qui n'avait pas d'urgence à être restaurée, mais c'est de la Croix dont on restaure qui est finalement très bien, ça les a nettoyées, c'est un très beau résultat. Mais c'était il y a 50 ans, il y a 40 ans, la précédente restauration. Est-ce qu'il faut revenir tous les 40 ou 50 ans? On ne sait pas restaurer à plus long terme. Ça dépend peut-être des peintures, évidemment, probablement. Mais finalement, 40, 50 ans, c'est pas beaucoup.
Je crois pas, effectivement. Je crois qu'il n'y a pas forcément une périodicité établie. Il se trouve qu'à Fontainebleau, on a ce cas particulier de la salle de bal qui a, quand on regarde l'histoire, ça a toujours été une cause de chagrin, d'une certaine manière, parce qu'il y a un vice de forme initial, c'est une grande salle qui a été faite pour être une loggia ouverte, et le problème, c'est qu'on l'a transformée en rideau, l'a transformée en salle avec des peintures, et ça a toujours posé des problèmes de stabilité. Donc, il y a divers facteurs de stabilité, ce qui fait qu'on doit revenir quand même très régulièrement sur ces peintures. Pour ce qui est de la galerie François Ier, il n'y a pas les mêmes cause d'altération. Simplement, il y a un empoussièrement, il y a une espèce de voile, on ne peut pas parler de chancy pour les peintures murales, mais une espèce de voile qui s'est mise sur certaines peintures et qui fait que la lisibilité est moins bonne. Et puis, les stucs se sont encrassés. Sur ces stucs avait été posé un jus qui a jauni, qui fait par moments une espèce de peau de léopard. Donc là, dans ce cas-là, ce serait plus une restauration, même si je n'aime pas le terme, une restauration un peu cosmétique pour rendre à cette galerie qui est quand même, c'est la chapelle Sixtine du décor de la Renaissance française d'une certaine façon, pour lui rendre un niveau de présentation qui soit au niveau de son importance dans l'histoire de l'art. C'est pas pour ça effectivement qu'on doit y revenir tous les 10 ans. Moins on y reviendra, croyez-moi, enfin en tout cas c'est mon opinion, moins on y reviendra, mieux ça vaudra, mais pour l'instant la présentation n'est pas digne De ces espaces.
Et la restauration de ce petit édifice qui se trouve au milieu de l'île, là, son nom m'échappe. Le pavillon de l'étang, sur lequel j'avais fait un article, se poursuit.
Alors, l'urgence, là encore, l'urgence était d'intervenir sur les lambris qui sont à l'intérieur de ce pavillon de l'étang, puisqu'il a été restauré pour l'impératrice Marie-Louise et avec des peintures à l'antique en quelque sorte. Sur bois. Donc vous imaginez qu'il s'agit d'une cage en réalité au milieu de l'étang soumise à des pressions hygrométriques, des pressions de climat absolument démentielles. Donc les choses ont quand même beaucoup joué à l'intérieur de ce pavillon. On a déposé les lambris en prenant soin de refixer ce qui manquait de tomber, et pour l'instant les lambris sont déposés dans le château, sont en cours de restauration et devront être évidemment reposés dans le pavillon, mais pour ça il faudra que le pavillon soit restauré. Or on avait de l'argent pour faire la restauration des lambris, on n'en a pas encore pour faire la restauration de la structure même du pavillon qui est nécessaire, mais ça viendra, on a commencé et on est intervenu sur ce qui menaçait véritablement. Malgré tout, on travaille tout de même dans l'urgence, avec des priorités.
Parlons maintenant des acquisitions. Alors, vous avez lancé, il y a quelques semaines, une grande souscription pour acquérir un ensemble, plusieurs pièces de porcelaine de Sèvres dans la période Empire, Où en est cette souscription?
Alors, c'est une opération très, très audacieuse, effectivement. Il s'agit d'un ensemble de 46 pièces du Premier Empire, toutes liées de près à l'empereur et à la famille impériale, toutes pièces de la manufacture de Sèvres du plus haut niveau, porcelaine de Sèvres du plus haut niveau, qui nous ont été proposées par un collectionneur américain qui a décidé de se défaire de sa collection et qui a proposé au château de Fontainebleau la primeur de cette collection, plutôt que de faire passer tout en vente publique chez Christie's, Sotheby's ou Bonhams, je ne fais de la publicité pour personne, mais il a préféré proposer au château de Fontainebleau, et en l'occurrence au musée Napoléon, ces pièces exceptionnelles, dans l'idée tout de même que sa collection, finalement, se pérennise d'une certaine façon et rentre dans une grande institution nationale. Nous avons eu l'appui véritablement très généreux de la Galerie Aveline qui a abrité cette collection pendant plusieurs mois. Les générosités ont été au rendez-vous, pas totalement au rendez-vous puisque la somme à atteindre est quand même très, très élevée, on est à 2 950 000 euros. On a pu tout de même, tout récemment, grâce au crédit propre du château de Fontainebleau, grâce au mécénat d'entreprise, grâce à la générosité des particuliers, on a quelquefois des chèques de 50, 100 euros qui arrivent et qui arrivent quotidiennement, on a pu faire l'acquisition du lot 6, dans le jargon de la conservation de Fontainebleau, c'est-à-dire d'une coupe, la coupe dite Montalivet, et puis une tasse à l'effigie de l'impératrice Marie-Louise, et les lots 7 et 8, c'est-à-dire les lots d'assiettes, sont en cours d'acquisition. Reste à trouver les fonds pour, je dirais, les lots les plus importants et les plus chers, c'est-à-dire le cabaret égyptien et le cabaret des princesses de la famille impériale, qui nous tient particulièrement à cœur, parce que c'est une galerie de tableaux sur porcelaine qui doit intégrer un jour les collections du musée Napoléon.
Et vous n'avez pas de grande entreprise qui a décidé d'offrir finalement l'un ou l'autre de ces lots qui ne sont pas de trésor national?
Alors, ils sont...
La déduction fiscale pour une entreprise, c'est 60% ou 90%?
Ils sont œuvres d'intérêt patrimonial majeur, ouais. Puisqu'ils appartiennent
90%,
à un citoyen américain, donc ils sont en importation temporaire. Mais la législation de ce point de vue-là est la même. On est passé devant la Commission des Trésors nationaux qui a décidé leur classement comme œuvre d'intérêt patrimonial majeur. Donc pour une société, c'est 90% de défiscalisation.
Donc si une grande société, si le président de grande société écoute cette émission, vous pouvez, pour une somme finalement très modique...
Pour une somme au
10%,
final,
10%, et je crois qu'il y a 5% en plus d'avantages qui sont donnés. Donc ça équivaut à 5% du prix offrir un, voire deux, voire plusieurs lots, dont ce cabaret, par exemple, au château de Fontainebleau.
Voilà,
il est encore temps pour l'année 2016.
Et comme on est en fin d'année, où les comptes, finalement, sont en train de se faire...
Voilà, une entreprise pourrait faire cela. Ça serait... Est-ce que vous avez des contacts avec des entreprises?
Alors, on a eu des contacts avec des entreprises. On a un chargé de développement et du mécénat au château qui est extrêmement actif. Christophe Beyeler, de son côté, s'est aussi beaucoup, beaucoup démené. Pour l'instant, on n'a pas réussi à intéresser une très grande entreprise qui serait susceptible d'avancer effectivement cette somme relativement importante. En revanche, des entreprises locales ont contribué pour des sommes non négligeables à l'acquisition d'un certain nombre de pièces.
Alors malgré tout, et je pense que vous avez absolument raison, je pense qu'on ne peut pas vous le reprocher, vous essayez d'acheter ces pièces importantes, mais il se trouve que le marché est ce qu'il est et qu'il y a des œuvres qui passent et qui sont importantes pour vous, et vous avez préempté quelques-unes d'entre elles à la vente Napoléon Ier, qui se trouvait chez Orsena, à l'étude Orsena à Fontainebleau, une vente d'une collection de M. Chalençon, je ne me rappelle plus son prénom, mais qui... Pierre-Jean Chalençon, effectivement, qui est un grand collectionneur Empire et qui se séparait d'un certain nombre de ses pièces. Quelles sont ses préemptions?
Alors, nous avons pu acquérir lors de cette vente qui a eu lieu dimanche dernier.
Dimanche dernier, alors précision, parce que nous enregistrons l'émission le 24 novembre, elle ne sera diffusée que la semaine prochaine. Donc, dimanche dernier, c'était quelque chose comme le 20 novembre.
Dimanche 20, oui, pardon. Voilà. On a pu acquérir trois pièces du service à fonds Nankin, qui est un service très important pour nous, puisque c'est celui qui a été livré par la manufacture de Sèvres pour la visite du pape. 1804, donc c'est le premier service utilisé sous le Premier Empire à Fontainebleau. Quand je suis arrivé au château, on n'en connaissait pratiquement aucune pièce. Il y avait juste trois assiettes qui avaient survécu. Depuis, c'est pas, quand je suis arrivé au château, c'est pas mon œuvre d'avoir acquis tout cela. Bien sûr, ça a été initié largement par les conservateurs précédents. On essaye de regrouper le maximum de pièces de ce service. Et là, deux assiettes passées en vente et une pièce de forme qu'on n'avait pas du tout. Et on a pu également faire l'acquisition d'un sucrier à tête d'aigle du service de Cambacérès, donc les têtes d'aigle étant évidemment un élément héraldique extrêmement important. Et on a pu préempter également d'autres pièces, dont deux petits bustes par Biennet qui viennent de l'ancienne collection du docteur Ledoux Le Bar, dont on sait combien elle était excellente dans le domaine du Premier Empire. Un buste de Pauline et un buste de Caroline. Donc effectivement, je pense que ça peut être bien compris du public. On a une grande opération d'acquisition qui se déroule sur un assez long terme d'une certaine façon, mais en même temps, ça n'est pas une raison pour abandonner les opportunités très importantes qui peuvent apparaître sur le marché. Ça n'était pas facile pour tout vous dire, parce qu'en plus on est en fin d'année, donc les crédits généraux du service des musées de France étaient quand même très largement épuisés.
Votre politique d'acquisition, donc, c'est d'une part enrichir ce musée Napoléon, ce musée du Premier Empire, donc, qui existe déjà mais qui s'agrandira dans quelques années, avec des pièces de porcelaine de Sèvres, mais pouvez-vous nous décrire en deux mots la politique d'acquisition plus générale du château et du musée ?
Alors c'est vrai que si on regarde les choses sur le plan budgétaire, l'essentiel des acquisitions se fait pour le musée Napoléon, qui est une collection ouverte, je dirais. Nous avons la chance à Fontainebleau d'avoir un château meublé, avec des réserves aussi pleines de meubles, ce qui signifie qu'on a peu de raisons d'acquérir des éléments mobiliers pour les appartements. Il manque peu de choses dans les appartements. Certaines fois, certaines pièces sont meublées avec des équivalents, parce que l'original n'est pas disponible. En général, il est soit dans un palais de la République, soit dans une ambassade, et c'est l'objet de négociations avec le mobilier national, qui nous aide toujours formidablement bien pour récupérer des objets. Maintenant, quelquefois, quand des meubles qui étaient dans les appartements du château passent en vente, on essaye de les acheter. Ça peut être des toutes petites choses. On a acheté un tabouret de pied qui était dans le salon de l'impératrice. Bon, voilà, on l'a acquis là aussi chez Maître Osna, et on va pouvoir le replacer dans le grand cabinet de l'impératrice. S'il se présentait évidemment des sièges du boudoir de Marie-Antoinette, dont un seul existe à la Fondation Gulbenkian et dont on a deux copies, chose exceptionnelle, à l'intérieur du château pour que le public puisse comprendre.
Des copies de quelle époque ?
C'est des copies qui ont été faites dans les années 1970. C'est Jean-Pierre et Colombe Samoyau qui avaient eu l'idée de faire copier le seul siège présent à Gulbenkian, pour que dans cette pièce, on comprenne malgré tout qu'il y avait des sièges.
Expliquez quand même que c'est bien expliqué que c'est une copie, parce que je suis toujours un petit peu
copies modernes. Évidemment, c'est moi aussi, je suis toujours prudent avec ça, mais je trouve que dans une pièce qui était une pièce intime, un boudoir de la reine Marie-Antoinette, finalement, cette absence de siège était presque choquante. Donc là, on en a deux.
Et un équivalent n'est pas possible, plutôt qu'une copie.
Un équivalent, je pense que.
Je veux dire que c'est une discussion qui serait trop longue pour qu'on l'ait là. Mais je crois que, enfin, justement, ce qui me plaît à Fontainebleau, c'est qu'il y a assez peu, presque pas, mais je crois qu'il y en a un petit peu quand même, de copies assumées plutôt que des équivalents. Les copies, moi je trouve qu'un musée ne devrait pas présenter de copies. Mais ça, c'est une opinion personnelle que je ne sais pas.
Alors, si... j'ai juste mis le doigt sur les deux seules copies qui sont présentes
dans
les appartements. N'allons pas en déduire que Fontainebleau présente des copies dans ses appartements. Il se trouve que très ponctuellement, effectivement, les deux sièges ont été copiés d'ailleurs très bien sur le seul fauteuil subsistant à la Fondation Gulbenkian à Lisbonne. Donc, nos acquisitions dans le domaine du mobilier sont en général assez rares. On a fait tout de même quelques acquisitions de sièges du Premier Empire, et parce qu'il faut voir qu'à la fin du XIXe siècle, pas mal de mobilier du château de Fontainebleau a été vendu par l'administration des domaines. Alors on se dit c'est du mobilier secondaire, pas toujours. Les sièges de la première chambre de Napoléon à Fontainebleau en 1804 ont été vendus.
Mais est-ce que ce n'était pas inaliénable ? Est-ce que cette vente est légale ?
C'est les ventes de la Troisième République dans les années 1880. Je pense qu'elles étaient légales.
Bah, étant donné qu'on récupère des tableaux disparus vers 1820, par exemple le tableau de Toulouse, le portement de croix de Nicolas Tourny, qui d'ailleurs n'est toujours pas revenu à Toulouse, on ne sait pas ce que fait le service des musées de France, ça c'est une autre histoire. Est-ce qu'on pourrait dire que ces ventes ne sont pas légales en fait ?
Alors, ce mobilier était géré par le mobilier national, ça veut dire que c'était pas des pièces de musée.
D'accord.
On l'avait pas considéré comme des pièces de
musée.
Pas musée, d'accord. C'était véritablement le mobilier national qui vend, comme il le fait encore quelquefois, avec radiation des inventaires. Il nous arrive de racheter quelques pièces de mobilier du Premier Empire, on l'a fait il n'y a pas très longtemps, des pièces qui sont aujourd'hui présentées en exposition au château de Fontainebleau. Et puis, il y a la question de la peinture, effectivement. Savoir ce qu'on achète dans le domaine de la peinture. On a acquis, il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons, une copie ancienne d'une scène d'un cycle d'Ambroise Dubois dont l'original est perdu. Donc là, ça vient compléter, effectivement, un cycle de Dubois par une copie.
En fait, vous êtes vous dire, l'école de Fontainebleau, il y a 3 musées qui achètent. Il y a vous, il y a Écouen et il y a le Louvre.
Il y a le Louvre, alors.
La seconde école de Fontainebleau.
Voilà, alors, on n'achète pas, évidemment, au même niveau. Le Louvre, quand se présentent des dessins, par exemple des dessins de Primatis pour la galerie d'Ulysse, c'est le Louvre qui achète. C'est le cabinet des arts graphiques, ce qui paraît logique. Non. On n'a pas de cabinet des arts graphiques.
Vous n'avez pas de dessins du tout
hein. On a des dessins. On a des dessins, je dirais, un peu tous azimuts, d'une certaine manière, ça va des dessins de Rosa Bonheur, à des dessins qui représentent le château, parce qu'il y a aussi tout cet aspect documentation, au sens le plus noble du terme, du château. On acquiert des dessins en relation avec l'histoire du château. Mais disons que les grands dessins de la Renaissance, c'est plutôt le Louvre qui en fait l'acquisition, pour des raisons que vous pouvez imaginer.
Parlons des expositions. Maintenant, quelles sont les expositions en cours, celles qui vont venir et vos projets en fait, d'exposition, avec toujours une grande exposition qu'on peut voir au moment du Festival d'Histoire de l'Art au début du mois de juin.
Voilà, alors j'ai souhaité, quand je suis arrivé à la tête de la conservation, à la direction du patrimoine et des collections, qu'on ait un calendrier d'exposition qu'on ne pourra pas forcément toujours tenir, mais avec une grande exposition printemps, effectivement, qui est visible au moment du Festival d'Histoire de l'Art, qui se déroule dans la salle de la Belle Cheminée, et une exposition dossier, entre guillemets, il faut bien l'appeler d'une certaine manière.
Qui sont des fois des dossiers très, très fournis, quand même.
Qui peuvent être des dossiers très fournis. Ça avait été le cas pour l'allégorie à la mort du dauphin de la Grenée, mais qui soit faite à partir d'une œuvre ou d'un ensemble d'œuvres de nos collections, qui mettent en valeur nos collections. Parce qu'effectivement, une peinture, un meuble dans un musée-château, il fait partie d'un ensemble. Il fait partie d'une famille. De temps en temps, c'est intéressant de le sortir de cet ensemble, de braquer les projecteurs sur lui, comme ça avait été le cas pour le cabinet d'Ébène, et de voir, d'entendre tout ce qu'il a à dire. Donc là, pour l'instant, on a une exposition dans les salles du château sur l'ameublement de 1804. Qu'est-ce que Napoléon a fait installer en 1804 pour son premier séjour avec le pape ? C'est un mobilier qui est très différent de celui qu'on verra après, qui est encore le mobilier de la République, en quelque sorte. C'est le mobilier de Sparte par rapport au mobilier de Rome. Et donc, on présente une trentaine de pièces sorties uniquement de nos réserves, faites uniquement avec des œuvres venant de Fontainebleau. Ça, c'est une exposition qui a été inaugurée il y a un peu plus d'un mois et qui dure jusqu'au mois de janvier, jusqu'à mi-janvier. Et au printemps prochain, on aura une grande exposition consacrée à Charles Percier. Charles Percier, c'est toujours Percier et Fontaine, là en l'occurrence, il a été
tout seul.
Détaché de Fontaine. C'est Jean-Philippe Garry, qui est professeur d'histoire de l'architecture à Paris, hein, qui a particulièrement travaillé sur ce personnage, qui a une véritable spécificité en tant qu'ornemaniste, en tant que, à la fois aussi enseignant de l'architecture. L'exposition, nous la faisons avec une institution new-yorkaise qui est le Bard Graduate Center. Donc, je suis allé à New York la semaine dernière pour l'inauguration de cette exposition Percier et que nous récupérons en la modifiant sensiblement, parce qu'on a quand même beaucoup d'objets qui sont liés à l'esthétique, au dessin de Percier à Fontainebleau. On pourra la présenter dans la salle de la Belle Cheminée au printemps et la lier avec un parcours dans les salles, parce que ça, on est toujours très attentif à lier le parcours des salles au propos de l'exposition.
Et dans les projets à moyen terme ?
Dans les projets à moyen terme, 2018, normalement, une exposition Louis-Philippe à Fontainebleau, parce qu'on oublie trop souvent coincé entre les deux Napoléons, que Louis-Philippe a été a réécrit Fontainebleau très très largement. Il a été un grand pédagogue de l'histoire de cette maison. Il en a fait, il a ancré le château comme une maison de famille au moment où il faisait de Versailles un musée. Et nous n'avons aucunement l'intention de gommer évidemment la présence de Louis-Philippe à Fontainebleau, mais au contraire là de la mettre en valeur. Et puis 2019, quelque chose que nous faisons, une exposition que nous faisons avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal, extrêmement actif.
Dans cette même émission, Nathalie Bondy, qui effectivement vous a parlé de ce projet.
Voilà, un projet sur la maison de l'empereur, le fonctionnement donc de la maison de Napoléon Ier, avec ses différents services et avec quel impact ça a eu sur la production artistique.
Concluons cette émission avec l'actualité. Donc vous disiez que vous étiez à New York il y a quelques jours. Quelles expositions, par exemple, avez-vous vues?
Alors, j'ai eu la chance d'arriver à New York au moment où débutait l'exposition consacrée au bronzier Gouttière.
Qui va venir à Paris, je crois.
Collection, qui va venir
aux arts décoratifs.
Avec le Musée des Arts Décoratifs, puisqu'elle se fait en collaboration entre l'Afrique Collection et le Musée des Arts Décoratifs. C'est quand même rare de voir une exposition consacrée entièrement à un bronzier, n'est-ce pas? Avec des pièces tout à fait exceptionnelles. Alors, l'Afrique Collection, c'est une exposition qui se tient dans deux salles de dimensions relativement réduites, mais les pièces sont d'une qualité éblouissante. Et en plus, l'Afrique Collection a pris le parti de les présenter sans, la plupart des pièces sont présentées sans vitrine. Ce qui fait qu'on a le nez sur ces porcelaines montées, sur ces bronzes d'une délicatesse incroyable, et c'est une très très belle exposition. En même temps, j'ai pu voir au Metropolitan Museum, j'ai été très gâté, je dois bien dire, l'exposition qu'Annick Lemoine a fait avec...
Que j'ai pu voir également, j'ai eu la chance de voir, parce que vous allez à la TFAF de New York. Et j'ai vu cette exposition qui sera au Louvre dans quelques mois, dans 2-3 mois.
Voilà, où j'ai pu découvrir enfin la grande allégorie de Rome qui est conservée à la Villa Lante, l'Institut culturel finlandais qui n'est jamais ouvert et que je n'avais jamais vu. Et une peinture qui m'avait quand même beaucoup, beaucoup intrigué quand je l'avais vue en reproduction. Là, c'est effectivement une peinture très, très, très frappante, très forte. Et puis la belle exposition consacrée à Jérusalem, où là il y a des merveilleuses découvertes dans le domaine des manuscrits, au Metropolitan Museum aussi. Très, très vaste exposition, superbe, qui rencontre des différents aspects de la ville, et avec notamment des chapiteaux sculptés retrouvés en fouilles, qui sont parmi les sculptures médiévales les plus bouleversantes que j'ai vues.
Et à Paris, est-ce qu'il y a des expositions que...
À Paris, j'ai déjà vu deux fois, une fois tout seul, et puis une fois avec ma fille, que j'essaye d'emmener de temps en temps dans les expositions, l'exposition Second Empire, sur le Second Empire à Orsay, qui est une exposition superbe, pour laquelle nous avons prêté deux vases du musée chinois, mais qui me semble bien, effectivement, retranscrire là, le foisonnement artistique du Second Empire.
En livre, est-ce qu'il y a des livres que vous avez récemment lus qui vous paraissent recommandables pour les auditeurs de la Tribune de l'Art?
Alors en livre, je m'étais précipité sur le petit livre de Paul Venn sur Palmyre, hein, au moment des événements dramatiques de Palmyre. Effectivement, c'est un livre qui m'avait beaucoup, je trouvais ça très très stimulant. Là, j'ai mis mon nez hier soir dans un livre qui vient d'être publié sur la coupole de Calais, vous savez, qui a été remontée dans le département des objets d'art du musée du Louvre, qui vient du Palais Bourbon. Bon, j'ai contribué pour un modeste article dans cet ouvrage, c'est pas pour ça que j'en parle.
C'est un ouvrage qui est publié par qui?
C'est un ouvrage qui est publié par les éditions du Louvre, et que je viens juste de recevoir, et qui fait le point sur l'aventure extraordinaire de ce décor qui a été fait pour le dernier prince de Condé au Palais Bourbon, qui est passé entre les mains de Göring sous la Seconde Guerre et qui est aujourd'hui remonté avec bonheur dans les salles des objets d'art. Donc c'est une étude de à la fois de l'histoire, mais aussi de la redécouverte esthétique d'un ensemble de Calais absolument merveilleux.
Vincent Droguet, merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous aux auditeurs et aux visiteurs de la Tribune d'Art, aux auditeurs de la Semaine de l'Art, la semaine prochaine pour une prochaine émission. À bientôt. Au revoir.